Laudetur Jesus Christus.
Contrôler l'embargo sur les armes à destination de la Libye, condition du processus de paix dans le pays. Les Européens ont acté hier la relance de l'opération navale Sophia en Méditerranée. Un nouveau Premier ministre tunisien 3 mois et demi après les législatives. Le pays du jasmin confronté à un paysage politique morcelé. Aucune majorité ne parvient à émerger. Devenir l'investisseur numéro 1 en Afrique, c'est l'ambition affichée hier par le Royaume-Uni. 10 jours avant le Brexit, Boris Johnson a réuni 16 dirigeants africains pour approfondir la relation commerciale avec le continent. Enfin, dans notre dossier, focus sur les vertus du multilatéralisme tel qu'il est défendu aujourd'hui par le Saint-Siège, une diplomatie vaticane soucieuse du rôle joué par l'ensemble des acteurs impliqués dans un conflit. L'éclairage dans un instant de Mgr Bruno-Marie Dufay.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. La Libye est une tumeur qui se métastase et déséquilibre les pays situés à la fin du Sahara. L'inquiétude exprimée hier par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Europe décide donc de relancer l'opération Sophia en Méditerranée, un mandat révisé à la demande de l'Italie. Il est désormais exclusivement centré sur le contrôle de l'embargo des armes à destination de la Libye. C'est le fruit de la réunion des 28 ministres des Affaires étrangères hier à Bruxelles. Bruxelles où l'on retrouve Pierre Benazé.
Les Européens ont formellement décidé de relancer l'opération Sophia. Cette mission militaire européenne avait engrangé des résultats tangibles dans la surveillance de l'embargo sur les armes. Mais elle ne dispose plus de navires depuis 10 mois. Les Européens ne sont pas parvenus ce lundi à reconstituer une escadre qui pourrait reprendre son travail. Étant donné qu'il arrivait épisodiquement aux navires de l'opération Sophia de devoir aussi recueillir en mer des migrants, les opérations navales avaient cessé du fait du désaccord constant entre capitales sur le lieu de débarquement de ces migrants. Certains estiment que la tenue d'élections régionales très sensibles en Émilie-Romagne le 26 janvier empêche le gouvernement italien de donner son feu vert à la relance directe de l'opération. C'est probablement la raison pour laquelle les Européens ont décidé de recentrer la mission sur la lutte contre le trafic d'armes, loin des trajets empruntés par les migrants, estime-t-on ici, une mission qui devrait aussi être étendue à des contrôles terrestres. Le mandat des Nations Unies est toujours valable, mais l'UE doit donc remodeler la structure de Sophia pour la remettre à l'eau. Et le résultat tangible des discussions entamées ce lundi pourrait ne pas être sur la table avant le 17 février, date de la prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
De nouvelles opérations françaises dans la zone frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina, annonce de la ministre des Armées hier pour lutter contre l'expansion djihadiste. En visite dans la région, Florence Parly est venue mettre en œuvre les conclusions du sommet de Pau qui réunissait en début du mois Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. En Tunisie, c'est maintenant à l'ancien ministre des Finances, Elias Farfar, qui incombe la délicate tâche de former un gouvernement. Il dispose de moins d'un mois pour trouver une équipe suffisante. Susceptible de convaincre un parlement tunisien morcelé. Les explications de Marine Henriot.
Une tâche ô combien délicate, car en cas d'échec, de nouvelles élections législatives seront organisées et cela repoussera encore la mise en place de réformes tant attendues pour relancer l'économie. La Tunisie n'a pas de gouvernement depuis octobre dernier. Cette tentative est déjà la deuxième. Début janvier, les députés tunisiens refusaient leur confiance au gouvernement proposé par Habib Jemli, le premier ministre choisi par les islamo-conservateurs de Ennahda. Cette fois, c'est le président tunisien lui-même qui a proposé le nom de Elias Farfar, un candidat malheureux à la présidentielle, mais l'ancien ministre est aussi une des personnalités politiques les moins partisanes. Dernièrement, ses compétences économiques ont été mises en avant. C'est peut-être cela qui pourra lui permettre de lui faire valider son gouvernement par les parlementaires. Le parlement tunisien est aujourd'hui morcelé. 54 députés pour Ennahda, 38 pour Kaptounès. Mais la menace d'une destitution avant d'aller à de nouvelles élections pourrait pousser les députés à faire des compromis dans le choix du gouvernement.
Marine Henriot. 500 migrants centro-américains refoulés du Mexique hier. Ils tentaient de forcer la frontière sud du pays avec le Guatemala. 1500 migrants du Honduras et du Salvador avaient eux déjà tenté samedi d'entrer illégalement au Mexique. Ils en avaient été empêchés par la garde nationale. Le phénomène de ces caravanes de migrants stoppées sous pression américaine l'année dernière reprend peu à peu en ce début d'année 2020. Et outre le défi migratoire, le Mexique toujours confronté à une violence endémique. 35 000 homicides en 2019. 2019, année record, annoncent les autorités. C'est le chiffre le plus élevé depuis 1997 et cela équivaut à une moyenne d'environ 95 homicides par jour, soit 4 par heure. Amérique latine toujours, en Colombie, plus de 3000 personnes ont été déplacées par des affrontements entre gangs de narcotrafiquants. Cela pour le contrôle des zones de production de cocaïne, expliquent les autorités. Le gouvernement colombien estime que le trafic de drogue est à l'origine de la spirale de violence dans le pays qui, depuis 2016, s'est soldée par les assassinats d'au moins 303 leaders communautaires ou militants des droits. C'est un petit scandale qui fait rage à Porto Rico autour d'une aide d'urgence non utilisée. La découverte d'un entrepôt rempli de fournitures d'urgence, manifestement destinées aux sinistrés de catastrophes naturelles, mais non distribuées, elle a déclenché sur l'île l'ouverture d'une enquête judiciaire ainsi que des manifestations dans la capitale San Juan. Le Royaume-Uni ambitionne d'être l'investisseur numéro 1 en Afrique. Pour cela, Boris Johnson a réuni hier en sommet à Londres 16 dirigeants africains et de nombreux chefs d'entreprise. Le Premier ministre britannique qui s'est aussi montré plus ouvert à l'arrivée de migrants une fois le Brexit passé, assure-t-il. Le détail à Londres de Jean Jaffré.
Le Premier ministre britannique a présenté le Brexit comme un nouveau départ pour la politique commerciale du Royaume-Uni. Boris Johnson s'en est tenu à des généralités sur l'attractivité du pays au cours de la prochaine décennie. Il a toutefois annoncé l'arrêt du conseil et du financement de projets de construction de centrales thermiques au charbon dans le monde. Par ailleurs, le CDC Group, une agence gouvernementale, a signé une série de contrats d'un montant de 400 millions de dollars avec des banques africaines pour financer des prêts à des moyennes et petites entreprises. L'accent est mis sur les énergies renouvelables, la construction de logements et les nouvelles technologies. À noter que le continent ne représente que 3% des exportations britanniques. La concurrence est rude avec des pays comme la Chine, l'Inde ou le Japon qui courtisent les États africains depuis plusieurs décennies. Étant donné la complexité des négociations commerciales, la priorité sera donnée aux États-Unis, au Japon et à l'Australie, entre autres. Les accords signés par l'Union européenne avec l'Afrique continueront de s'appliquer pendant plusieurs années. Il est paradoxal qu'au moment où le Royaume-Uni rompt les amarres avec l'Union européenne, les 54 États africains accélèrent leur intégration économique et douanière, tant au niveau régional que continental. Jean Jaffré, Radio Vatican.
C'est un aller simple de la Malaisie vers la France et d'autres pays européens pour 150 conteneurs de déchets plastiques. Le pays d'Asie du Sud-Est refuse de devenir la décharge des pays développés. Il a renvoyé hier ses déchets illégaux vers leur pays d'origine. Et la Malaisie compte en expédier encore 110 prochainement, dont 60 vers les États-Unis. Les capacités de recyclage du pays sont en effet bien inférieures aux arrivages et certaines localités sont submergées par les déchets. Moins d'une semaine après l'annonce d'une réforme du système politique visant à une redistribution du pouvoir entre les différents organes de l'État russe, Vladimir Poutine a déposé hier ses propositions de modification des organes de l'État. Ces amendements que le Parlement devrait adopter rapidement attisent aussi des spéculations sur les intentions du président russe après 2024, date de la fin de son mandat. Et le peuple russe, lui, devrait se prononcer en avril prochain. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
En avril, très probablement, les Russes seront amenés à se prononcer sur plusieurs amendements présentés hier par le président. Si la modification est acceptée, la constitution russe limitera à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le droit russe l'emportera sur le droit et les traités internationaux et les retraites seront indexées à l'inflation annuelle. Par ailleurs, les juges, les élus et les ministres ne pourront pas être binationaux ou avoir vécu une longue période à l'étranger. Dans un souci d'organiser sa succession, Vladimir Poutine propose également plusieurs mesures susceptibles d'affaiblir les pouvoirs de son successeur. Il s'agit notamment de renforcer le rôle du Parlement dans la nomination du Premier ministre, mais surtout de donner de véritables pouvoirs au Conseil d'État, dont Vladimir Poutine pourrait prendre la direction à l'horizon 2024. Il aurait comme prérogative de déterminer les principales orientations de politique intérieure et extérieure, ainsi que les domaines prioritaires de développement économique et social. Enfin, le président devra avoir vécu les 25 dernières années en Russie sans avoir bénéficié d'un titre de séjour à l'étranger. Une réforme dont beaucoup pensent qu'elle permettrait au président de passer la main tout en restant incontournable dans la conduite des affaires du pays. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Une controverse de plus entre la Russie et la Pologne. Les commémorations des 75 ans de la libération du camp allemand d'Auschwitz vont rassembler à Jérusalem de nombreux chefs d'État de la planète, à l'exception du président polonais Andrzej Duda. Celui-ci a décliné l'invitation israélienne, craignant de nouvelles accusations d'antisémitisme de la part de Vladimir Poutine, et qui devrait vraisemblablement prendre avec ses deux discours prévus une large place dans l'événement. L'ouverture aujourd'hui à Davos, en Suisse, du 50e Forum économique mondial. Et parmi les thèmes de travail, le risque climatique, mais aussi le multilatéralisme. Un dossier sensible pour le Saint-Siège, qui y sera représenté par le cardinal Turkson, le préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral. La création récemment au Vatican d'un nouveau poste au sein de la secrétaire d'État pour le multilatéralisme témoigne de cet intérêt du Saint-Siège. Et dans son discours de vœux au corps diplomatique en début d'année, le pape François a rappelé un renouvellement du multilatéralisme auquel il est effectivement très attaché. Monseigneur Bruno-Marie Dufay, secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral, analyse l'importance de ce dossier défendu par le pape François et sur le rôle joué par l'ensemble des acteurs impliqués.
On a deux phénomènes, fragilisation du droit international et du coup des protections des personnes, et en particulier des personnes vulnérables, et fragilisation des États. Les choses étant liées, car le droit est d'autant plus fort que les États en sont les garants. Quand les États sont en crise, évidemment, le droit en subit les conséquences. À cet égard, l'Église a plus d'une fois été sollicitée dans les années passées, des années récentes, à la fois pour apporter une réflexion fondamentale, une réflexion morale. C'est vrai sur les questions économiques, c'est vrai pour les questions des migrations, c'est vrai aussi pour les questions de conflits qui s'éternisent, qui sont des conflits violents, qui sont des conflits difficiles, raides, et dans lesquels la dignité des personnes est évidemment particulièrement maltraitée.
La diplomatie du Saint-Siège peut-elle avoir plus d'influence dans ce domaine des relations multilatérales que des relations classiques d'État à État?
Ce qui est compliqué, c'est que on a un certain nombre de relations bilatérales d'État à État qui se raidissent parfois. Là où l'Église peut remplir un rôle, c'est que précisément, elle est dans une posture qui est fondamentalement une posture de dialogue avec de nombreux partenaires, de nombreux États, de nombreux acteurs. Au fond, la diplomatie de l'Église, c'est d'abord une présence. Et c'est d'abord une présence qui écoute. Et c'est d'abord une présence qui essaye de comprendre. Et en essayant de comprendre, cette diplomatie, qui est une diplomatie, j'allais dire, en amont même de toute négociation, elle se situe en amont dans le sens où elle est positionnée comme acteur qui cherche les conditions d'une rencontre, les conditions d'une négociation, les conditions de la paix. Et donc la diplomatie, à cet égard, la diplomatie du Saint-Siège, à cette force et en même temps cette liberté qui est une liberté spirituelle, aussi bien qu'une liberté intellectuelle, morale, d'être au cœur des rencontres, d'écouter et peut-être à certains moments de faire une proposition modeste à l'égard des acteurs pour que les acteurs eux-mêmes prennent la responsabilité qui est la leur. Il s'agit d'être en position de conseil ou en position d'aide à la réflexion et d'aide à l'actualisation, à l'activation des processus de paix et des processus de reconnaissance mutuelle.
Comment rénover ce multilatéralisme comme le souhaite le pape François, comme il l'a annoncé lors de son discours de vœux au corps diplomatique?
Par deux ou trois points d'appui majeurs. Le premier, c'est ce qu'il appelle la culture de la rencontre. Passer de la culture de la menace ou de la surenchère à la culture de la rencontre, ça c'est un élément essentiel. La culture de la rencontre n'est pas si simple que ça, parce que ça présuppose qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'enfermement de l'autre sur ce qu'il a pu dire ou faire. Il y a une considération éminemment positive de chaque acteur. Il y a un deuxième élément qui me semble très important, c'est ce que j'appellerais l'exigence de la fidélité. La fidélité, ça suppose que ce qui a été dit en pesant les mots, c'est-à-dire avec prudence et en même temps encouragement. Et puis il y a une troisième chose, je crois, c'est de rappeler aux acteurs étatiques, mais aussi aux acteurs de la société civile, que il y a de nombreux acteurs en cause et que chaque acteur, ONG, communauté religieuse, acteur de la société civile, acteur de l'économie, acteur de la vie politique, chaque acteur a une part de responsabilité dans les relations multilatérales. On ne peut pas dire « ça n'est pas mon sujet ». Les politiques ne peuvent pas renvoyer sur les économiques ne peuvent pas dire « c'est simplement politique ». Ce n'est pas sans rapport avec le deuxième principe de la doctrine sociale de l'Église qui s'appelle la subsidiarité. Et c'est sans doute un des éléments forts de la posture diplomatique du Vatican à cet égard.
Interrogé par Xavier Sartre, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 13h pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité vaticane, religieuse et internationale en direct de Rome et en langue française. Excellente journée.